Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Bion à ce micro, au sommaire de cette édition du jeudi 20 juin 2024. L'Union africaine examine la demande de la Somalie qui appelle à ralentir le retrait de ses troupes, craignant une résurgence des islamistes. Au Kenya, des milliers de jeunes ont manifesté aujourd'hui dans la rue contre les projets de nouvelles taxes. 120 millions de personnes sont en situation de déplacement forcé à travers le monde, dont 43,5 millions de personnes réfugiées selon l'ONU.
Nous ne sommes pas prêts à accueillir les réfugiés, mais on est toujours prêts à assurer leur sécurité tant qu'ils sont au Rwanda.
Reportage sur la Journée internationale des réfugiés dans la partie magazine. Plus d'un milliard de dollars ont été annoncés en France à l'ouverture d'un forum mondial pour accélérer la production de vaccins en Afrique. Suite à une vague de chaleur, plus de 1000 personnes sont mortes lors du grand pèlerinage musulman en Arabie Saoudite. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco pour l'instant le journal. L'Union africaine examine une requête de la Somalie lui demandant de ralentir de 3 mois le retrait de sa force, ont indiqué des responsables de l'organisation panafricaine. Le point avec Claire Morin-Gibou.
Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine discute de la demande de Mogadiscio de ralentir de quelques mois la diminution des effectifs de la force africaine en Somalie. Le gouvernement somalien souhaite que 2000 soldats partent en juin et les 2000 autres en septembre, a expliqué un responsable de l'Union africaine qui a requis l'anonymat. La troisième et avant-dernière phase du retrait de la force de l'Union africaine en Somalie, dont le mandat s'achève le 31 décembre, prévoit le départ d'ici fin juin de 4000 des 13 500 soldats encore présents. Formés de troupes du Burundi, de Djibouti, d'Éthiopie, du Kenya et d'Ouganda, l'ATMIS épaule l'armée somalienne qui affronte depuis plus de 17 ans les Chebabs, affilié à Al-Qaïda. L'ATMIS tire son mandat de l'Union africaine, mais doit être autorisé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Le premier contributeur financier direct de l'ATMIS, c'est l'Union européenne, qui a débloqué 70 millions d'euros pour 2024.
La guerre au Soudan a provoqué l'une des pires crises humanitaires au monde. Depuis des décennies, a déclaré aujourd'hui le président international de l'ONG, Médecins sans frontières, Christos Christou. Les deux belligérants ont été accusés de crimes de guerre pour avoir visé délibérément des civils, bombardé des zones habitées et bloqué l'aide humanitaire malgré la menace de famine qui pèse sur des millions de Soudanais. La guerre a éclaté en avril 2023 entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide de son ex-adjoint, le général Mohamed Abdan Daglo. Au Kenya, des milliers de jeunes ont manifesté à travers le pays pour demander le retrait du projet de budget du gouvernement actuellement débattu au Parlement et qui prévoit l'instauration de nouvelles taxes. Rosine Monizero.
Cette journée de mobilisation s'inscrit dans le cadre d'un mouvement de contestation baptisé Occupy Parliament. Occuper le Parlement, lancé la semaine dernière sur les réseaux sociaux contre le projet de gouvernement de créer de nouvelles taxes, notamment sur le pain et sur les véhicules particuliers, pour financer le budget 2024-2025. Ce mouvement a fortement mobilisé dans la jeunesse. Parmi les jeunes manifestants de Nairobi, certains disent avoir peur pour leur avenir et d'autres estiment que le Parlement essaie de leur mentir. Les taxes qu'ils ont supprimées sur le pain, ils les ont ajoutées ailleurs, lance Bella, une étudiante de 22 ans. Face au mécontentement, le gouvernement de William Ruto avait annoncé mardi retirer du projet de budget la plupart des mesures fiscales prévues. Mais les manifestants demandent le retrait du texte dans son intégralité. Au Parlement, les débats sur le budget se poursuivaient jeudi en session extraordinaire. Une source parlementaire a indiqué que le vote est pour l'instant prévu le 27 juin.
Le président Emmanuel Macron et son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye se sont rencontrés aujourd'hui pour la première fois à Paris, exprimant leur volonté commune de donner une nouvelle impulsion au partenariat bilatéral selon un communiqué conjoint. Les deux dirigeants, selon ce communiqué, ont défendu un respect mutuel, un partenariat équilibré au service des intérêts économiques réciproques des deux peuples unis par des valeurs démocratiques partagée par un lien humain et une relation d'amitié. Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, a remporté avec éclat la présidentielle de mars au Sénégal avec un discours souverainiste et la promesse de rupture avec l'ancien système. Le chef du régime militaire au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a assuré aujourd'hui qu'il n'y avait aucun mouvement d'humeur au sein de l'armée. Il s'exprimait depuis la cour de la télévision nationale où une roquette était tombée le 12 juin. Cette prise de parole du capitaine Traoré intervient après plusieurs jours d'incertitude au Burkina Faso à la suite d'une attaque djihadiste meurtrière dans le nord-est du pays. Le capitaine Traoré a évoqué pour la première fois cet événement en expliquant avoir lancé une opération à Mantila le lendemain de l'attaque avec des troupes envoyées en renfort pour monter l'assaut. Aucun bilan officiel n'a été donné, mais selon une source sécuritaire, beaucoup d'éléments sont portés disparus. Et puis, deux officiels guinéens ont été condamnés ce jeudi à 8 mois de prison, dont un ferme après avoir déclaré que les patrons de médias très suivis avaient été achetés par la junte Djené Diaby et Tawel Camara. Deux des 13 commissaires de la haute autorité de la communication régulatrice des médias ont aussi été condamnés à payer une amende d'1 million de francs guinéens chacun.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Plus $1 milliard ont été annoncés à l'ouverture d'un sommet mondial sur la vaccination qui se déroule à Paris en France. Ces fonds visent à accélérer la production de vaccins en Afrique. Mouamadou Mfa.
Co-organisé par la France, l'Union africaine et l'Alliance du vaccin Gavi, le Forum mondial de l'innovation et de la souveraineté vaccinale veut donner un coup de pouce aux fabricants de vaccins en Afrique. Cette initiative pourra devenir un catalyseur pour promouvoir l'industrie pharmaceutique en Afrique et favoriser la collaboration entre les États membres, a estimé le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, alors que le continent continue d'importer 99% de ses vaccins à des coûts exorbitants. L'Union africaine s'est fixé l'objectif de couvrir 60% des besoins vaccinaux par la production locale d'ici à 2040. L'accent sera aussi mis sur le financement des vaccins contre le choléra, alors qu'une épidémie frappe actuellement la moitié du continent. Le président français a annoncé qu'une chaîne de production de vaccins contre le choléra pourra être déployée en Afrique par le laboratoire sud-africain Sordakan Biovac.
Plus de 1000 personnes sont mortes lors du grand pèlerinage musulman en Arabie Saoudite sous une chaleur intense, les précisions de John Lindon.
1081 décès ont été signalés par une dizaine de pays. Un diplomate a affirmé ce jeudi que 58 nouveaux morts ont été recensés parmi les pèlerins égyptiens, portant à 658 le nombre d'Égyptiens décédés durant le Hajj. Selon lui, 630 n'avaient pas d'autorisation officielle pour le pèlerinage qui a rassemblé cette année environ 1,8 million de personnes. Le Hajj est l'un des 5 piliers de l'islam et tout musulman qui en a les moyens doit le faire au moins une fois dans sa vie à une période déterminée par le calendrier musulman. Les rituels se sont déroulés cette année sous des températures très élevées qui ont atteint parfois près de 52 degrés Celsius à la grande mosquée de la Mecque dans l'ouest de l'Arabie Saoudite. Les deux pèlerinages musulmans, le Hajj et la Umra ou le petit pèlerinage, rapportent quelque 10 milliards d'euros par an à l'Arabie Saoudite, donc la deuxième source de revenus pour le premier pays exportateur de pétrole au monde.
Les récents propos du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, déplorant des retards dans l'aide militaire américaine à Israël, sont profondément décevants et certainement offensants, a dit aujourd'hui un porte-parole de la Maison-Blanche. Il a indiqué par ailleurs que le conseiller à la sécurité nationale américain, Jake Sullivan, devait rencontrer aujourd'hui son homologue israélien, ainsi que Ron Dermer, ministre israélien des affaires stratégiques. Les États-Unis ont pris la décision difficile mais nécessaire de donner la priorité à l'Ukraine par rapport à d'autres alliés en matière de livraison de missiles destinés à la défense antiaérienne, a dit aujourd'hui un porte-parole de la Maison-Blanche. Par conséquent, les exportations vers d'autres pays de missiles Patriot et NASAMS en particulier seront retardées, a dit John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale. Vladimir Poutine a débuté aujourd'hui une visite d'État au Vietnam, auquel la Russie fournit des armes depuis des décennies, au lendemain de la signature d'un accord de défense avec la Corée du Nord qui inquiète les Occidentaux Le chef du Kremlin a rencontré son homologue Tolam dans le palais présidentiel. Le président russe a remercié Hanoï pour son approche équilibrée sur l'Ukraine dans une tribune publiée dans le journal du Parti communiste vietnamien au pouvoir. La Russie et le Vietnam partagent aussi une lecture similaire de la situation en Asie-Pacifique, a-t-il soutenu. Et puis, 5 migrants ont été retrouvés morts ce mercredi à bord d'une embarcation au large de l'archipel des Canaries, alors qu'au moins 68 autres étaient secourus, ont annoncé aujourd'hui les services de secours espagnols. La pirogue a été repérée dans l'après-midi alors qu'elle se trouvait à environ 800 km au sud de Tenerife. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec John Lindon.
Le Gabon veut relancer le secteur du transport aérien après 20 ans de déclin. Selon le site ecomatin.net, Libreville a pris un certain nombre de mesures pour redynamiser une activité en perte de vitesse. Cela va du lancement d'une nouvelle compagnie à la création d'un véhicule d'investissement, en passant par la baisse des prix des billets d'avion et la rénovation des aéroports. La Banque africaine d'import-export et les centres africains de prévention et de contrôle des maladies ont annoncé ce jeudi la signature d'un accord de coopération qui prévoit la mobilisation par l'institution financière d'une enveloppe de 2 milliards de dollars pour soutenir la fabrication des produits pharmaceutiques en Afrique. Cet accord a été signé à marge du Forum mondial de l'innovation et de la souveraineté vaccinale qui se tient à Paris. Ici aux États-Unis, les actions de Wall Street ont ouvert en hausse jeudi, prolongeant une série positive propulsée par la hausse de l'intelligence artificielle, alors que la Banque d'Angleterre a, elle, maintenu ses taux d'intérêt inchangés. Nvidia, qui est devenue la société cotée en bourse ayant la plus grande valeur au monde en début de semaine, a bondi de 3,3% dans les premiers échanges.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Des nouvelles du marché des transferts pour commencer. L'Ivoirien Lasso Koulibaly est la première recrue d'Auxerre.
Oui, l'AJ Auxerre, promu en Ligue 1 française, a annoncé le recrutement du milieu offensif international espoir ivoirien. Lasso Koulibaly, 21 ans, qui évoluait au club danois du FC Nordjylland depuis 2021, s'est engagé pour 4 ans jusqu'en 2028. Le montant du transfert n'a pas été communiqué, mais sa valeur marchande serait de 1,5 million d'euros, selon le site internet de référence en la matière transfermarkt.fr. La saison dernière, il avait été prêté au Randers FC en première division danoise. Il a disputé 31 matchs, toutes compétitions confondues, inscrivant 4 buts et délivrant 5 passes décisives.
Italie-Espagne, c'est le choc du jour dans les matchs de l'Euro 2024.
C'est déjà un air de finale entre l'Italie et l'Espagne. Même si elle est championne d'Europe en titre, l'Italie se cherche encore avec un nouveau sélectionneur, Luciano Spalletti, arrivé en septembre dernier, et un effectif rajeuni en quête d'un buteur patenté. La Nationale s'est sortie du piège albanais pour son entrée en matière. De son côté, la Roura a fait forte impression lors de son premier match en surclassant la Croatie 3-0. Pour ce qui est des statistiques historiques, au bilan de leurs précédentes 40 confrontations, l'Italie et l'Espagne sont quasiment dos à dos avec 13 victoires pour la Roura, 11 pour la Nationale et 16 nuls. Juste avant, la Slovénie et la Serbie se sont neutralisées, un but partout.
Début ce soir de la Copa América ici aux États-Unis.
Les champions du monde argentins tenant du titre ouvrent le bal face au Canada Atlanta. Team USA, hôte américain, entre en compétition dimanche face à la Bolivie. Comme en 2016, pour la Copa du Centenaire, la compétition se déroule avec un format élargi à 16 équipes, les 10 concurrents sud-américains habituels de la CONMEBOL étant rejoints par 6 membres de la CONCACAF, l'Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes. Cette Copa, avec ses 32 rencontres, fait figure d'apéritif avant la Coupe du Monde 2026 et ses 104 matchs, dont 78 aux États-Unis. 8 stades font partie du dispositif pour les deux compétitions, dont le Hard Rock Stadium de Miami et le MetLife Stadium de New York, futur entre de la finale du Mondial.
Pas de 200 mètres pour Thompson Herah aux Jeux Olympiques de Paris.
La Jamaïcaine, double médaillée d'or olympique sur 100 et 200 mètres, ne va pas participer aux Jeux de Paris sur le demi-tour de piste, selon sa Fédération nationale d'athlétisme. L'athlète de 31 ans, victorieuse sur les deux distances aux JO de Rio en 2016 et de Tokyo en 2021, ne s'est inscrite que sur 100 mètres pour les sélections olympiques qui auront lieu du 27 au 30 juillet à Kingston. Lors de sa dernière course au début du mois à New York, Hélène Thompson Herah avait terminé dernière du 100 mètres en 11 secondes 48, loin de ses performances et de la gagnante, la Nigériane Favour Ofili, sa compatriote Shelly Ann Fraser-Pryce, médaillée d'or sur 100 mètres à Pékin en 2008 et Londres en 2012, est quant à elle inscrite pour les deux courses.
Page de sport VOA Afrique, signée Yakuba Ouedraogo.
Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Dion de retour avec vous pour le dossier du jour. Le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Philippe Ograndi, s'est rendu au Soudan et au Soudan du Sud à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés pour mettre en lumière la situation de millions de personnes déplacées par la guerre. Margaret Béchy de la VOA s'est entretenue avec Philippe Ograndi, le récit avec Dili Diko.
La guerre au Soudan a déclenché l'une des plus grandes crises de réfugiés sur la planète, selon les Nations Unies. Elle a éclaté en avril 2023 et a entraîné le déplacement interne de près de 10 millions de personnes et poussé 2 millions d'autres à chercher refuge dans les pays voisins. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Philippe Ograndi, a rencontré cette semaine des personnes déplacées à Kosti, dans le sud du Soudan.
They're fleeing a horrible violence, very severe violations of human rights.
Ils fuient d'horribles violences, des violations très graves des droits de l'homme. Mais de plus en plus, ils fuient aussi les privations et en particulier l'insécurité alimentaire et dans certains cas, la faim. Il s'agit donc d'une multiplication des facteurs qui sont toujours générés par cette guerre insensée qui ne semble pas vouloir s'arrêter.
Au Sud-Soudan, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés s'efforce de leur venir en aide. Mais l'aide humanitaire n'est qu'une solution à court terme. C'est la paix qui est nécessaire, selon Philippe Ograndi. À nouveau, Philippe Ograndi.
Mon appel s'adresse à tous ceux qui ont une influence sur les parties au conflit. Poussez-les non pas vers le champ des batailles, mais vers la table des négociations.
Ailleurs, en Afrique, les effets de la crise climatique entraînent des déplacements, forçant les gens à se déplacer, surtout lorsqu'ils sont associés à des conflits. Écoutons Philippe Ograndi.
Et là, ce qui se passe, c'est que le climat devient une cause des conflits. Il prive les communautés très pauvres vivant ensemble des ressources de base, l'eau par exemple. La communauté commence à se battre, ce qui entraîne des déplacements des populations.
Au niveau mondial, le nombre de personnes déplacées, de réfugiés et de demandeurs d'asile a augmenté au cours des 12 dernières années pour atteindre 120 millions. L'Ukraine, la Syrie et l'Afghanistan représentent un peu plus de la moitié des personnes déplacées de force. Philippe Ograndi.
Cette progression tragique se poursuivra si certains de ces conflits ne sont pas résolus et si les conditions nécessaires au retour des populations qui restent la meilleure solution ne sont pas créées. C'est là le grand défi.
Monsieur Grandi prévient qu'il sera difficile pour un monde de plus en plus divisé de relever les défis mondiaux croissants.
Les organisations humanitaires affirment que les crises au Soudan, en Somalie, au Sahel et dans d'autres régions reçoivent des fonds très en deçà des besoins. Au début du mois, le directeur du Conseil norvégien pour les réfugiés, NRC, a déclaré que la négligence totale des personnes déplacées est devenue la nouvelle normalité. Le point avec Harry Wilkins, le récit est de Gini Niwa.
L'ONU indique qu'environ 120 millions de personnes ont été déplacées de force en 2023, ce qui représente la 12e année consécutive d'augmentation du nombre de personnes déplacées. Ce mois-ci, John Egeland, directeur du Conseil norvégien pour les réfugiés, a déclaré que la négligence totale des personnes déplacées est devenue la nouvelle normalité. Selon le NRC, le Burkina Faso compte plus de 2 millions de personnes déplacées, ce qui en fait l'une des crises de déplacement les plus négligées au monde. Fatoumata Pessako, mère de 9 enfants, a fui le nord du Burkina Faso il y a 5 ans et affirme que l'aide a diminué depuis.
Dans le passé, nous étions enregistrés par le gouvernement, mais nous ne recevons aucun soutien de sa part. Quelques organisations caritatives nous ont aidés, mais leur soutien a considérablement diminué et il ne vient plus occasionnellement.
Un responsable humanitaire a déclaré à VOA que la hausse du nombre de crises dans le monde sape la volonté politique de les résoudre. Ciaran Donnelly est vice-président senior de l'International Rescue Committee.
S'il est vrai que le financement du travail humanitaire a augmenté au fil des ans, il est également vrai que le nombre de personnes ayant besoin d'une aide humanitaire a augmenté beaucoup plus rapidement que la capacité du secteur à les atteindre.
Des situations comme celle de Pessako sont particulièrement inquiétantes, déclare Ciaran Donnelly.
Ces personnes sont bloquées, elles sont effectivement entreposées, ce qui est un terme horrible pour parler de personnes. C'est un domaine dans lequel nous ne voyons pas d'investissement réel pour trouver des solutions.
Will Carter est le directeur national pour le Soudan du Conseil norvégien pour les réfugiés.
Je n'ai jamais connu un environnement de financement aussi avare, ce qui a conduit à une couverture des services assez horrible pour les personnes qui meurent de faim. Je n'ai jamais vu un tel niveau de négligence diplomatique et, dans une certaine mesure, médiatique face à des crises horribles.
Pessako affirme qu'elle comprend les problèmes de financement et qu'elle prie pour que le conflit prenne fin.
La communauté internationale reste préoccupée par notre situation. Alors que le conflit au Burkina se poursuit, je comprends que ce n'est pas facile pour eux non plus. Je prie pour que le conflit prenne fin afin que je puisse retourner dans mon village.
Comme des millions d'autres réfugiés, tout ce qu'elle veut, c'est rentrer chez elle.
Au Tchad, le gouvernement et le HCR commémorent la Journée mondiale des réfugiés. Le Tchad accueille plus d'1,2 million de réfugiés, y compris des milliers de demandeurs d'asile et des personnes déplacées. André Kodmajinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
Les multiples guerres au Soudan ont contraint plus de 600 000 réfugiés à fuir leur pays pour venir s'installer dans l'est du Tchad. Ces réfugiés, toutes catégories confondues, se disent bien protégés, même si l'aide humanitaire se raréfie.
Moi, particulièrement, je suis en sécurité. Depuis que je suis là, ça fait déjà 10 ans. J'aime le Tchad parce que c'est un pays solidaire.
Cependant, les jeunes réfugiés qui ont fini leur cursus scolaire au Tchad plaident pour que la loi d'asile soit promulguée pour faciliter leur réinsertion sociale.
Nous les autres, qu'on a eu la chance d'aller à l'université, fréquenter ici, cela nous a permis d'étudier une relation, d'être intégrés dans la société. Maintenant, le plus grand problème, c'est sur la question d'emploi. Nous aimerons, ce qu'à travers cette journée mondiale des réfugiés, célébrer un peu partout dans le monde que la question de l'emploi des réfugiés soit pris en compte par le gouvernement et que la loi d'asile soit promulguée comme il le faut pour que les réfugiés qui vivent sur les sols tchadiens puissent travailler comme ils ont étudié ici.
Une autre femme réfugiée éprouve les mêmes difficultés, même si elle était mariée à un tchadien.
Tu viens demander le travail, on dit que la place est réservée aux tchadiens, alors que moi j'ai même l'acte de mariage tchadien. C'est malheureux et quand il y a un problème, on dit que tu n'es pas chez toi. Mais sinon, nous remercions vraiment la SEDA, le HCR et ceux qui sont de près ou de loin qui nous supportent.
La situation des réfugiés soudanais dans l'est du Tchad est peu réjouissante selon la représentante du HCR au Tchad, Laura Lucastro.
Ce pays héberge effectivement 1,2 million de réfugiés dans 4 provinces. Donc le HCR, avec le gouvernement, nous avons essayé d'éloigner les réfugiés des frontières, mais malheureusement, les ressources ne sont pas suffisantes. L'année passée, ça a couvert seulement 40% des besoins des acteurs humanitaires et cette année, on n'est même pas à 10% encore. Donc ça, c'est le problème que nous avons, c'est que la population réfugiée grandit, que les populations tchadiennes demandent aussi un peu d'assistance et que les ressources ne sont pas là. Donc on n'arrive pas à donner suffisamment d'eau, suffisamment de nourriture, suffisamment d'abri. Et nous avons une population très grande, comme vous savez, d'environ 190 000 personnes qui se trouvent encore à Adré, au point de frontière, en attendant d'être relocalisées dans des nouveaux sites aménagés.
Tout en assurant la sécurité physique des réfugiés et celle des humanitaires, le Tchad est favorable à toutes les solutions durables pour des milliers de déplacés, estime Madame le ministre en charge de l'action sociale et des affaires humanitaires, Fatima Boukar Kossey.
Le Tchad demeure toujours favorable. aux solutions pour le retour volontaire et librement consenti des réfugiés dans leur pays d'origine, et c'est dans les conditions de sécurité et de dignité possible.
Le gouvernement et ses partenaires humanitaires craignent qu'une épidémie se développe dans les quatre provinces du Tchad où il y a concentration des populations réfugiées. André Kodomadjingar Njamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Les réfugiés hébergés par le Rwanda demandent à la communauté internationale de plaider pour leur retour dans leur pays d'origine. De Kigali, le reportage de Jean Damascène Manishimwe.
Ils sont plus de 135 000, les réfugiés hébergés par le Rwanda. Justin Kagyemé, un réfugié congolais, vient de passer presque trois décennies dans un camp dans l'ouest du Rwanda.
Nous venons de passer 28 ans dans un camp de réfugiés, dans une vie difficile. C'est vraiment misérable. Nous en avons assez. Nous ne voulons plus continuer à vivre comme réfugiés. Nous voulons rentrer et souhaitons voir notre mère patrie dont nos parents nous parlent souvent.
La majorité des réfugiés viennent du Burundi et de la République démocratique du Congo, deux pays voisins dont les relations avec le Rwanda sont tendues depuis quelques années. Albert Murasira est ministre rwandais en charge des réfugiés.
La RDC et le Burundi, et ils ne sont pas prêts à accueillir les réfugiés, mais on est toujours prêt à assurer leur sécurité tant qu'ils sont au Rwanda.
Depuis novembre 2023, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a sensiblement diminué son aide aux réfugiés. Pour pallier à ce problème, Kigali mise sur l'entrepreneuriat des réfugiés. Le ministre rwandais chargé des réfugiés explique.
Les aides continuent à diminuer, alors pour qu'ils soient indépendants, on les encourage à essayer de trouver du travail et on les éduque, on les donne des formations pour gérer des petites coopératives et de travailler ensemble avec les Rwandais. Il n'y a pas de différence.
Le Rwanda accueille aussi depuis 2019 des migrants venus de Libye. La plupart ont été traumatisés par leur expérience en Libye. Le témoignage de Nyarang Chiwero, originaire du Soudan du Sud.
Du Soudan du Sud à la Libye, nous avons eu beaucoup de difficultés à cause de la guerre et du tribalisme. Tant de problèmes dans cet endroit.
Le commissariat pour les réfugiés a récemment accusé le Rwanda de maltraiter les réfugiés, ce que le Rwanda a rejeté catégoriquement. Malgré cette brouille, l'OACR affirme que les deux parties vont continuer de collaborer pour le bien des réfugiés. Eni Dotieng est représentante adjointe du HCR au Rwanda.
Les solutions que nous proposons à ce groupe particulier sont la réinstallation dans un pays tiers, le rapatriement volontaire vers leur pays d'origine, et ceux qui souhaitent rester ici sont aussi bien informés. Et nous continuerons à collaborer avec le gouvernement pour cette fin.
Actuellement, le Rwanda abrite plus de 80 000 réfugiés congolais et quelques 50 000 Burundais. À cela s'ajoutent plus de 600 migrants venus de Libye en attente de trouver d'autres pays d'accueil. Jean Thomas Seneman et Chimé pour VOA Afrique, Kigali.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24h sur 24.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Are you ready? Êtes-vous prêt à mieux parler l'anglais? Rendez-vous sur VOA Afrique tous les soirs à 21h TU. C'est l'occasion rêvée de revoir le vocabulaire, les expressions courantes, la grammaire et les tournures de phrases.
et surtout de vous familiariser avec l'anglais américain. Il y a du matériel pour tous les niveaux et tous les goûts. Let's go! Retrouvez-moi, Michel Joseph, tous les soirs à 21h TU sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.